Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir. Alors, je suis heureux de vous retrouver après ces deux mois où on n'a pas pu faire d'émission. Donc, je vais tout de suite accueillir Jean pour cette émission spéciale. Hein. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Parfaitement, Cédric. Bonsoir.
Oui, bonsoir Jean. Heureux que ça fonctionne hein, après un petit truc qui a voulu un peu nous embêter, mais on a réussi à passer au-dessus. Oui. Donc on va un petit peu expliquer pourquoi j'ai dit que c'était une émission un peu spéciale ce soir hein. Ça va quand même tourner autour de la spiritualité mais on va pas se mentir non plus hein, comme disait Sarkozy. On va parler aussi un peu de ce qui va venir dimanche hein, les fameuses élections et surtout du très très grand enjeu qu'il va y avoir pour les 5 prochaines années à venir. Bon, c'est pas une émission politique, hein, mais on va quand même faire un peu la liaison entre les deux parce que de toute façon, il faut savoir que dans la spiritualité, tout est égal à un, donc tout est unité, donc la politique en fait partie aussi. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont véreux, hein, comme on a pu voir, que forcément le monde de la politique est forcément véreux. Donc, Jean, est-ce que tu veux faire ta petite phrase d'introduction pour cette émission?
Oh, bien, phrase d'introduction, j'attendais que tu me poses une question. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisque c'est le dernier jour des élections. Et c'est vrai que c'est un moment important. C'est un moment important que j'attendais depuis longtemps, ce moment des élections, parce que 2017 est une année si importante pour l'humanité. Et du coup, bien sûr, ces élections prennent leur place dans ce changement qui a déjà commencé, qui s'est initié déjà il y a quelques années. Mais je pense que 2017 va être une année très très importante. Et voilà. Et la France a un rôle à jouer. Et les élections en France, bien sûr, puisque ce sont.
Ah, une petite coupure. J'espère que ça va pas durer trop longtemps.
Cédric, ce que je peux dire pour démarrer, et puis j'attends que tu me poses des questions, et puis nous allons voir un peu où est-ce que nous allons aller.
Voilà. Alors justement, on va parler un peu des enjeux de ces élections, mais surtout ce qui se passe en fait dans le milieu caché, c'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne veut pas qu'on sache, notamment des fameux maîtres du monde. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces fameux maîtres du monde ? Qui sont-ils, justement ?
Alors, on peut en parler, c'est vrai. Je ne vais pas donner trop de détails parce que c'est un sujet très épineux et puis on n'aurait pas le temps parce que c'est très long,
oui,
c'est
tout à
complet.
Fait.
Je peux renvoyer à quelques lectures, bien sûr, si des auditeurs veulent s'y intéresser d'un peu plus près. J'ai traduit, je ne sais pas si tu l'as lu, je pense, hein, j'ai traduit un texte de pris d'un livre
oui.
d'un économiste espagnol qui s'appelle Emilio Carrillo. D'ailleurs, je le cite assez souvent.
Oui, tout à fait.
J'ai traduit d'ailleurs pas mal d'extraits de ses livres. Il a écrit beaucoup de livres. Alors, c'est un économiste, il est professeur d'économie, mais c'est un professeur aussi, disons, un enseignant spirituel d'un très très haut niveau. Et donc voilà, je m'inspire pas mal de ce qu'il écrit. On a fait une vidéo d'ailleurs avec lui, on l'a interviewé, et on l'aime beaucoup, Emilio. On suit beaucoup ce qu'il dit. Et c'est vrai que dans ce texte que j'ai traduit, que j'ai plus là sous les yeux, mais bon, il était question justement de brosser un tableau un petit peu de ces maîtres du monde qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas où ils sont, qui ils sont, on ne sait pas grand-chose sur eux. dont on peut deviner qu'ils sont peut-être des êtres, ce sont pas des êtres humains, hein, ce sont des êtres d'une autre nature. Ils sont quelques-uns, et donc depuis longtemps, ils dirigent le monde. Et alors, ils ont créé un système de domination du monde, justement, par cercle. Hein. C'est comme ça qu'on l'a décrit.
Oui.
Alors, eux faisant partie du premier cercle, le deuxième cercle étant ce que nous appelons les Illuminati, donc quelques-uns, hein. Quelques-uns dont on connaît déjà des noms, les grands, des banquiers, etc.
Oui.
Et puis ensuite, le troisième cercle qui sont des sociétés secrètes ou semi-secrètes, hein. Alors on va parler de la franc-maçonnerie et bien d'autres, des sociétés justement pour créer comment dire, une barrière entre les hommes du deuxième cercle, hommes ou extraterrestres, et les hommes du quatrième cercle. Ça fait une barrière. S'il y a des sociétés secrètes dont on ne sait pas trop qui les dirige, ça crée une barrière et ça parce que le but, bien sûr, c'est de créer à chaque fois des barrières entre ces cercles. Hein, ça, voilà. Et puis après, il y a le cinquième cercle, et là, il y a tous les gens que nous connaissons, bien sûr, hein, les hommes
Oui.
politiques, les grands médias, les grands chefs d'entreprise, les grands présidents, les présidents des grandes sociétés sportives, par exemple, et bien d'autres choses, quoi, voilà, qui font partie de ce quatrième cercle. Voilà. Et c'est vrai que comment dire, alors ceux du quatrième cercle, parce que ce sont ceux-là qui nous intéressent, parce que ce sont ceux qu'on connaît, qu'on voit tous les jours à la télé, qu'on voit un peu par-ci par-là,
Oui.
tous ces gens qui sont en vue, quoi, socialement, politiquement, qui sont, voilà, et qui, plus ou moins inconsciemment, bien, quelquefois inconsciemment, ils savent pas très bien qu'ils font partie d'un système, mais voilà. Ils font partie du système, ils reçoivent des consignes, ils les appliquent, etc., etc. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est le pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir, tout simplement. Parce que ceux du premier cercle se nourrissent du pouvoir, se nourrissent de nos émotions et du pouvoir qu'ils peuvent avoir sur la totalité de l'humanité. Donc, c'est ça, c'est le pouvoir. Alors, bien sûr, ceux du quatrième cercle et du troisième, bien sûr, il y a l'argent. Hein, parce que l'argent, ben, c'est le pouvoir, hein, bien sûr. Mais en dernier lieu, c'est toujours c'est le pouvoir et la domination sur l'humanité. Voilà. Donc nous sommes esclaves depuis longtemps et justement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une accélération justement dans cet objectif justement de nous rendre un peu esclaves, quoi. Voilà. Alors c'est pourquoi apparaissent de ci et de là des gens qui nous montre un petit peu le chemin, qui ouvre un peu la porte et nous montre la lumière, quoi, hein, et qui nous demande de nous éveiller pour sortir de ça. Alors j'ai écrit quelques métaphores, par exemple, tu as dû la lire, Cédric, la métaphore de la grenouille, hein,
Oui, tout à fait. Ouais. Très connu d'ailleurs, justement, hein. La
qui est
grenouille
connue,
qui...
ouais, bien
Ouais,
sûr,
la
bien
grenouille
sûr.
qui savait pas qu'elle était cuite.
La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Mais bon, mais c'est ce que nous sommes, hein, nous sommes dans ce chaudron. Et la grande majorité de la population ne sait pas qu'elle est dans un chaudron. Elle ne sait pas qu'elle est dans l'eau qui commence à bouillir, parce que plus elle bouillit, et plus elle endort les gens. Donc voilà. Puis après, une fois qu'on est bien endormi, ben, comme la grenouille, il ne reste plus qu'à mourir. Voilà. Donc,
Oui.
bien sûr que tout ça, tout ce qu'on peut dire, c'est. Alors, bien sûr, on peut voir les gens qu'on connaît, on peut voir les hommes politiques, et on peut porter des jugements. En fait, on n'a pas à porter de jugement, parce que tout ça, tout ce système, est fait pour qu'un jour, et ce jour arrive. Il y a déjà quelques décennies que ça a commencé, mais on est à un point maintenant où il nous est demandé de nous élever en conscience et de nous éveiller vraiment et de sortir du chaudron. C'est pour ça que c'est intéressant cette année. Et on n'a pas à en vouloir. Et Cédric, on n'a pas à porter de jugement sur quiconque de ceux qui, manifestement, consciemment ou pas, veulent nous maintenir dans cet état d'esclavage. Parce que grâce à ça, maintenant, il nous est demandé justement de nous éveiller, de sortir du chaudron. Donc c'est intéressant. C'est ça le but du jeu, c'est sortir du chaudron. Hein. Ou la métaphore de la caverne de Platon,
Oui, aussi.
c'est de sortir de la caverne pour aller à la lumière. Et le but de notre incarnation, qu'est-ce que c'est? Sinon, seulement ça, sortir de la caverne pour aller à la lumière. Et c'est ça le but de notre incarnation. Donc tout ce système, si tu veux, on n'a pas à le juger, on n'a pas à le mépriser, on n'a rien à dire, juste à suivre ce qui nous est demandé et nous élever, voilà, et nous élever en conscience. Et ensuite, quand on a fait ça, quand on est en train de faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est remercier tous ces gens-là. Remercier tous ceux qui peuvent paraître comme nos bourreaux. Hein? Les remercier et ne pas oublier de les aimer. Ne pas oublier de les aimer. Parce que c'est dans l'amour qu'on va pouvoir faire ce saut quantique. Le saut quantique que la grenouille n'a pas su faire. Hein? Et c'est ça le but de notre incarnation. Et c'est intéressant, c'est que cette année-là, il se passe déjà des choses, mais il va encore se passer beaucoup de choses. Peut-être que des choses qui seront peut-être difficiles, mais si on sait se donner la peine de sortir du chaudron, de s'éveiller, de faire ce saut quantique, à ce moment-là, on aura un œil observateur sur ce qui se passe et on ne sera pas partie prenante avec la souffrance qui peut prendre la majorité des gens. Tu vois?
Oui.
C'est ça qui est important de comprendre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Cédric? J'ai dit l'essentiel, là.
Oui, bah c'est vrai que ce côté de cercle, moi, ça me fait penser un peu vulgairement à un oignon, parce que on enlève
Oui.
les couches au fur et à mesure pour arriver au milieu, quoi,
Oui,
le
oui, oui,
noyau.
oui. Oui, bien sûr, oui. Bien. Bien
C'est
sûr.
Vrai que tout ce côté cercle et tout, on commence à voir que, comment dire, les gens commencent à s'éveiller déjà, à monter toi petit à petit au niveau des cercles, comme on parlait tout à l'heure des Illuminati, franc-maçonnerie, les Rose-Croix et j'en passe, hein, parce qu'il y en a toute une ratification impossible à nommer, hein, on en aurait pour 2 heures à tout dire,
Oui.
tellement qu'il y en a, et c'est pas pour rien non plus, hein, c'est pour brouiller les pistes. Et les gens commencent à se rendre compte en fait qu'au début c'était les politiciens, machin, nanana, mais maintenant il y en a qui commencent à se rendre compte de plus en plus que c'est au-dessus en fait. Que
Oui.
pour autant ils sont pas d'accord que les politiciens et tout qui continuent encore dans leur jeu, mais au moins ils passent au cran au-dessus. Ils passent au-dessus parce qu'ils se disent, ils font les pantins, moi c'est ce que je dis souvent, c'est un spectacle de polichinelle, parce qu'en fait il y a ceux au-dessus qui s'amusent à les manipuler quoi. Qu'on voit le fameux candidat Macron, qui est issu des médias, parce que pour moi, c'est pas un homme politique, hein, c'est un banquier. C'est un banquier. Quand on voit qu'il a été complètement formaté par les médias, on se dit quand même que il y a quelque chose. Et les gens commencent à se rendre compte. Bon, alors, pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais on commence à observer que des gens remettent les choses en question plutôt que de les avaler d'un coup comme ça. Ce
Oui, bien sûr.
qui. Ce qui montre
Oui.
justement, je finis juste
Oui,
mon
vas-y,
petit truc.
dis-moi, vas-y, vas-y.
C'est juste en fait qu'on commence à voir que les gens, comme tu le disais très bien, ils sont dans ce côté de sortir du chaudron, qu'ils commencent à s'élever et ils commencent à se poser des questions. Ce que la grenouille n'a pas fait, si elle s'était mise, mais attends, ça commence à devenir chaud, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas normal. Tu vois, là, les gens commencent à se poser cette question-là parce qu'ils se disent, ah, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est en train d'observer ce phénomène-là.
Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Macron, Mélenchon, tous ces gens. Mais tous ces gens-là, tu sais, ils ont leur rôle à jouer et ils le jouent très bien. Et tu parlais de théâtre. Et
Oui.
c'est vrai que, et c'est ça qui est important aussi de comprendre. En fait, tout est pièce de théâtre. En fait, la vie est une pièce de théâtre. Et la vie de chacun est une pièce de théâtre. Autrement dit, la vie de l'humanité est un théâtre gigantesque, hein, énorme, mais c'est un théâtre quand même. C'est-à-dire que nous sommes sur Terre incarnés dans un monde d'illusions. Et à partir du moment où on comprend. Alors, moi j'ai eu une expérience de sortie du corps, assez banale, malgré tout, par rapport à des milliers de témoignages que j'ai lus sur des gens qui ont eu cette expérience. Mais j'ai eu une expérience moyenne, à peu près, comme on en voit un peu partout. Mais il m'en est resté cette chose-là qui a bouleversé ma vie, hein, mais qui a, tu l'as bouleversé pas d'un coup, hein, ça a été progressif. Mais en fait, cette expérience m'a amené à ce que je suis maintenant, c'est que dans cette expérience, j'ai compris que je n'étais pas mon corps et que j'étais un être spirituel. Et à partir de là, j'ai compris que dans cette vie d'incarné, quand je suis revenu dans mon corps, mais j'ai continué à vivre dans mon corps. J'ai compris qu'en fait, tout était théâtre, tout était un monde d'illusions. Mon corps fait partie de l'illusion. Donc l'ego, le mental, sont les moteurs de cette illusion, les créateurs de cette illusion, tu sais? Et quand on comprend ça, eh bien on se comprend que, voilà, quand on voit ce qui se passe en ce moment, il y a des élections, il y a des candidats, chacun raconte ses trucs, hein, dont on sait que c'est plus ou moins vrai, dont on sait qu'ils savent que c'est pas tout à fait vrai. Bon, ok, alors on pourrait les critiquer, mais non, en fait, c'est un théâtre. C'est un théâtre. Là maintenant, il y a eu un attentat.
Oui, hier, ouais.
Ouais, ça commence, ça continue d'être un théâtre. Ça continue d'être un élément de la pièce de théâtre qui se joue. Et ça aura des conséquences sur les élections, certainement. Je ne sais pas dans quel sens. Bon, peu importe. Mais c'est toujours un théâtre. Et tu vois, j'insiste là-dessus parce que c'est toi qui as commencé à parler de théâtre, mais il faut bien y rester et comprendre qu'en fait, dans cette incarnation, tout est illusion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein. On est là pour nous éveiller en conscience. On est là pour justement nous rapprocher de cette âme qu'en réalité nous sommes. Tu comprends?
Oui.
C'est ça la vraie spiritualité. C'est ça. Et donc tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous semble ben, détestable, hein, comme ces élections, comme tout ce qui se dit, comme les attentats, comme les manipulations, tout ce qui nous semble très détestable, en fait partie du jeu, fait partie de cette immense pièce de théâtre qui se joue dans lequel nous sommes acteurs aussi. Dans lequel nous sommes acteurs, tu vois? Il faut pas l'oublier. Et ça, c'est important de comprendre ça. Moi, je me dis que si chacun pouvait réaliser que nous sommes dans cette vie d'illusion, que nous sommes justement en train de jouer un théâtre dans lequel nous sommes acteurs, il me semble que si on arrivait à cette conscience, du coup, les choses auraient beaucoup moins de prise. Ce qui nous fait souffrir nous ferait beaucoup moins souffrir. Tu vois? On n'aurait plus de jugement envers quiconque. Parce que dès qu'on a du jugement, c'est la souffrance qui s'ensuit. Ou des maladies. Tu vois? Et je me dis que si on arrivait à cet éveil, à ce niveau de conscience, les choses iraient beaucoup mieux. Mais c'est ça l'objectif. Tout concourt à faire en sorte que nous nous élevions en conscience. Donc tout ce qui se passe, il faut le regarder, il faut essayer de ne pas sombrer dans l'émotion, pas tomber dans les émotions. Parce que en fait, qu'est-ce qui nourrit le premier cercle de cet immense système qui dure depuis des siècles, hein, c'est pas récent, hein, qui dure depuis des siècles,
Même millénaire, je pense.
voire des millénaires, hein. Eh bien, qu'est-ce qui les intéresse? C'est justement nos émotions. C'est ça qui les nourrit. Si on prenait conscience de tout ça et que peu à peu on se libère de nos émotions, peu à peu, enfin, il n'est pas question de ne plus d'être sans émotions, mais d'être maître de nos émotions. À ce moment-là, les choses changeraient très rapidement, très très rapidement. Mais là, il y a un attentat. Effectivement, c'est normal. Les gens, il y a une émotion terrible, la peur envahit les gens, parce qu'en fait, c'est la peur. C'est la peur. Mais c'est la peur dont il faut pas se débarrasser, mais cette peur, il faut la transformer, la transmuter, cette peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui existe. Et c'est ce qui nous c'est ce qui fait que nous sommes sur Terre incarnés. Mais cette peur, notre devoir est de la transformer en amour, tout simplement, hein?
Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à comment dire, encore, c'est vrai que je parle très souvent de ce livre-là, Le Guerrier Pacifique, mais notamment quand le personnage qui était surnommé Socrate, pas pour rien, hein, pour en fait qui était très philosophe, qui disait que les émotions sont parfaitement naturelles, comme le
Bien sûr.
cycle des saisons.
Bien
Donc,
sûr.
il ne faut pas non plus réprimer ses émotions. C'est juste comme tu dis, il faut savoir en fait les laisser sortir, mais les transmuter d'une autre manière. Il ne faut surtout pas les réprimander, parce que les réprimander, ça aura un impact forcément sur le corps, au bout d'un certain temps.
Ah ben ça c'est sûr, tu sais, toute maladie prend sa naissance dans une émotion.
D'ailleurs, mal a dit, si on fait la langue des oiseaux.
Exactement, absolument. Il n'y a rien de plus vrai que ce mot-là. Il
Oui.
n'y a rien de plus vrai. Moi qui ai étudié les maladies et les cancers pendant des années, je peux t'en témoigner.
Oui, ça je n'en doute pas. Et c'est vrai que par rapport à ces maladies, bon, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. On va faire juste une petite un
Oui.
petit crochet. Le livre justement de Jacques Martel est très 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 bien pour justement comprendre les symptômes, de savoir quelles émotions ont justement généré ces symptômes-là pour pouvoir les décristalliser de notre corps, hein. D'ailleurs, je crois que Lise Bourbeau a écrit un livre à peu près similaire, il me semble.
Oui, Lise Bourbeau a écrit des choses intéressantes là-dessus. Jacques Martel, je le connais très bien, Jacques. Je lui avais organisé une conférence à Béziers il y a quelques années. Oui, très bien, son livre, oui, j'ai beaucoup aimé. Mais Jacques était comme moi, élève de Claude Sabat, et c'est Claude Sabat l'initiateur du décodage biologique, parce que c'est lui qui l'a créé, et des causes du sens des maladies. Hein, voilà. Et donc, alors Claude Sabat a eu des émules, hein, Christian Flesch, Salomon Selam, Didier Escassure, enfin bon, beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Édouard Van den Bogaert en Belgique, à Bruxelles par exemple, notamment. Bref, on ne va pas parler
Oui,
de.
c'est pas, c'était juste une petite accroche justement pour
Oui,
faire une
voilà.
liaison.
D'ailleurs, c'est vrai que quand on parle de ça, moi je suis passionné par ça, je peux parler pendant des heures. Oui, ce qu'on disait, c'est vrai qu'à propos des élections, et je sais ce que tu veux que je dise, j'en dirai deux mots à propos des candidats qui se présentent. Alors, moi, des candidats, ils ont tous leurs spécificités, je ne vais pas en dire grand-chose. Il n'y en a qu'un, effectivement, qui sort du lot.
Oui.
Et cet homme-là, je ne le connaissais pas il y a 2 mois ou 2 mois et demi, quoi. Si j'avais entendu parler, j'en avais entendu parler il y a quelques mois de ça, je ne sais plus dans quelle revue de presse, où on disait, tiens, cet homme, François Asselineau, avait prédit que cette députée anglaise pourrait être assassinée. Il aurait prédit que un assassinat juste avant le Brexit. Et effectivement, il en avait parlé, François Asselineau, quelque temps avant, et c'est arrivé. Bon, voilà. Et c'est comme ça que je me suis souvenu de cet épisode-là. Et effectivement, donc moi, je l'ai vraiment découvert il y a à peu près 2 mois, et j'ai découvert un homme d'une grande bienveillance, d'une grande bonté, d'une clairvoyance extraordinaire, et surtout d'une intuition absolument incroyable. D'une grande intuition. Et surtout, c'est un homme bon. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur son thème astrologique. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est mon péché mignon. Et voilà, ça s'est confirmé, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça que cet homme. Alors, ce n'est pas un politicien, comme je l'ai écrit quelque part. C'est un homme politique dans le sens noble du terme. Voilà. Et c'est vrai que quand on l'entend parler, on voit bien la différence avec les autres. Quand on lui parle, il s'arrête. Il ne coupe pas la
Oui.
parole. Voilà, c'est un homme du peuple, quoi. Voilà. Et moi, il m'a beaucoup plu. Et surtout, alors, bien sûr, en plus, il a un message qui est intéressant. C'est justement pour nous aider à sortir. C'est à cette occasion que j'ai écrit la métaphore de la
De la
grenouille.
grenouille.
Et oui, parce que là, il nous suggère de sortir du chaudron, c'est-à-dire de l'Europe. Et ça, c'est intéressant, parce que l'Europe, effectivement, c'est une construction du cercle, quoi, hein, de tous ces cercles-là, hein, de ce système-là. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, il m'a intéressé, et je m'en suis intéressé, j'ai écouté un peu ce qu'il avait dit, plusieurs de ses conférences, et j'ai été séduit, effectivement. Voilà. Et c'est vrai que c'est le seul à proposer de sortir de l'Europe,
Tout à fait, et
et
de l'OTAN.
c'est courageux parce que c'est pas encore dans le sens du courant de la pensée unique, hein.
Non.
La pensée unique nous amène dans d'autres directions. Voilà, mais bon, moi, il m'a beaucoup séduit. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que dans la métaphore que je viens de sortir là sur l'allégorie de Platon, je le compare à cet homme qui, curieux, sort de la caverne et va voir à la lumière pour découvrir une autre réalité, quoi. Hein, voilà.
Oui.
Voilà,
D'ailleurs, juste pour faire un autre crochet par rapport à ce que tu disais par rapport au thème, j'ai vu une personne qui a fait une étude holistique et énergétique des candidats pour la présidentielle. Et pour François Asselineau, justement, au niveau intégrité, il a mis 75%, pour l'empathie, 85%, et le rayonnement global, il a mis 12 000 unités Bovis. Bon. En tout cas, il est dans le vert. Hein. D'ailleurs, dans son tableau, pour ces trois colonnes, il n'y a que deux candidats qui sont comme ça. C'est François Asselineau et Jean Lassalle. Il n'y en a pas d'autres. Hein.
J'allais en parler. Oui, voilà. Jean Lassalle.
Donc, en fait, c'est vrai que c'est les deux candidats. Bon, même moi, honnêtement, Jean Lassalle, quand je l'ai entendu parler aussi sur l'émission qu'ils avaient fait, pas celle d'hier, hein, celle qui était faite sur BFM TV. Honnêtement, c'était les deux seuls qui ressortaient vraiment une sincérité exemplaire. Bon, bon, y en a d'autres, je peux dire, hein, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils sont tous dans le rouge, parce que forcément, les deux, c'est dans la haine, donc forcément, les vibrations sont plus basses. Et après, les autres, c'est très mitigé. Hein, honnêtement, ça ressort un petit peu à ce que tu dis par rapport à son thème astral. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai écouté, je devais aller le voir justement, François Asselineau, je devais aller le voir à Bordeaux. Bon, malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais j'ai écouté avec la mère de ma fille sur YouTube. Et honnêtement, qu'on a écouté, on sent vraiment la sincérité. Et c'est surtout qu'il dit les choses clairement, posément, sans chercher à convaincre. Comme il le disait souvent, je vous dis les articles et tout ça, mais un conseil, allez les lire. Allez vous informer par vous-même. Et ça, honnêtement, depuis que je suis en âge de voter, j'ai jamais entendu ça. Voilà.
Oui, oui, c'est vrai. Il se démarque totalement des autres. Quoi. Il a une grande, grande sensibilité. Il a une sensibilité féminine, je dirais.
Oui, même dans le regard aussi.
Oui, oui, oui. C'est ce qui. Et en même temps, il a une grande détermination, alors très, très forte détermination, une force de volonté importante, de travail aussi. Mais en même temps, c'est ça qui m'a plu chez lui, c'est cette sensibilité, c'est alors une intuition absolument incroyable. D'ailleurs, je crois qu'il est médium, cet homme. Hein.
Donc, très certainement.
Voilà, il n'en est pas loin, hein, j'imagine. Mais bon, peu importe, hein, oui. Il a une grande intuition, ça il le dit, il le démontre. Et voilà, moi c'est ce qui m'a plu, mais c'est cette bienveillance, cette bonté, cette sensibilité qu'il dégage... Moi, c'est ça qui m'a plu chez lui. Et son intégrité, sincérité, c'est vrai, honnêteté. Alors, il y a des belles qualités chez lui qui se conjuguent pour faire l'homme qu'il est. Là. Et bon, alors nous, on ne sait pas les résultats qui se... Mais je dirais, peu importe les résultats de dimanche, je crois qu'il a ouvert une voie et c'est ça qui importe, je crois. Il a ouvert une voie et je pense que beaucoup de gens vont s'engouffrer. Et je crois qu'il va aider des centaines, voire des milliers de personnes à sortir du chaudron, je crois.
Oui, je pense. Et justement, je voudrais juste faire un petit truc. Alors, je vais tester. Hein. C'est une petite vidéo de YouTube. En fait, c'est sa phrase d'introduction de son débat de France 2. Je voulais juste le faire un peu entendre pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, hein, juste les premières minutes. Parce que honnêtement, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais moi, quand je l'ai vu, franchement, j'ai trouvé... que c'était vraiment quelque chose de très beau et ça confirmera justement ce que tu as dit. Donc, je vais juste lancer la vidéo, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc ça se lance. Ah, bah comme par hasard, je ne peux plus la voir parce que France Télévisions a bloqué la vidéo pour des droits d'auteur. Comme par hasard.
Ah bon, voilà, ouais.
Bon, je vais essayer de la retrouver en attendant, mais je vais essayer de la retrouver parce qu'honnêtement, c'est vrai que c'est quelque chose de... intéressant de voir, c'est surtout quand il parle de pourquoi il a choisi le symbole de la rame, enfin du rameau d'Olivier.
Le rameau d'Olivier, oui, il parle de la paix, bien sûr. C'est un homme de paix, hein, c'est un homme de paix. Alors ça, c'est important. C'est pour ça qu'il se démarque totalement. Et à mon avis, c'est pour cette raison qu'il est blackboulé, il est vraiment rejeté par. On voit la différence de traitement qu'il y a entre lui et l'ensemble des autres, quoi. Par rapport aux médias, par rapport aux autorités aussi. Il est vraiment mis à l'écart. C'est marrant, je regardais, dans l'après-midi, je regardais un sondage récent de je ne sais plus quel journal. Eh bien, le sondage, je veux dire, les 10 candidats, sauf lui, étaient concernés par ce sondage, mais lui, il n'y en faisait pas partie. Et ça, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Donc, c'est vrai qu'il est mis à l'écart parce que ce qu'il dit, bien sûr, est dangereux pour le système. Voilà. Ce qu'il dit est dangereux. Alors, et puis ensuite, la personne qu'il est aussi est dangereux pour le système. Et moi, j'admire, c'est son. Cette détermination tranquille qu'il affiche pour continuer son chemin. J'allais dire un combat. Non, non, il se bat contre personne, mais pour continuer son chemin. Ça c'est très plaisant, ça me plaît beaucoup. Ouais, voilà. Alors, bien sûr que ceci dit, il y a les autres candidats et il y aura un président. Bon, eh bien, il faudra l'honorer et le respecter. Et j'ajoute, Cédric, l'aimer. Mais l'aimer de toutes nos forces. Et je crois qu'on devrait essayer de ne plus juger les uns et les autres. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que quand on juge, quand on est dans le jugement et la critique, à ce moment-là, eh bien, on s'installe encore dans ce monde de la séparation. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que Mélenchon, Marine Le Pen, Macron, peu importe les uns les autres, je considère moi qu'ils font partie de ma création. Je les ai créés. Et toi, tu peux dire ça pareil, et chacun des Français aussi. On a créé ces gens-là. Ils font partie de nous. Ils sont notre reflet, c'est-à-dire que en nous, nous avons une partie de nous qui est eux. Donc on n'a pas à critiquer l'un ou l'autre, sachant qu'ils sont une partie de nous-mêmes. Si ce n'était pas le cas, ils ne seraient pas là, ce seraient d'autres.
À 3 jours du vote, bienvenue
Donc,
pour cette
je
ultime
pense,
soirée
moi,
politique
j'essaye
avant le
d'avoir
premier
cette
tour. Bonsoir
attitude.
Léa.
Hein.
Bonsoir
J'aime
David
bien
et
François
bonsoir à
Asselineau,
tous.
c'est vrai, mais j'ai rien du tout contre les uns ou
Ces
les autres.
11 candidats, ils
Pas
vont
plus
se
un que
présenter
l'autre.
un par un.
J'observe ce qu'ils font, ce qu'ils disent, bon, mais j'essaye de sortir de tout jugement. Parce que qui m'autorise à donner un jugement, c'est mon ego. Ben, qu'est-ce que mon ego a à faire là-dedans? Il n'y a rien à faire là de mon ego. Il n'y a rien. Bon, si mon ego commence à me guider comme il l'a fait depuis longtemps, à me commander à guider ma vie, ben, il m'amènera vers des souffrances encore et encore et encore et toujours. Donc il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce schéma. Et considérer que tous ceux. Alors là, bon, ce sont des candidats, ce ne sont pas des bandits, hein. Mais que ce soit n'importe qui, je veux dire, ceux qui concernent notre vie, tous ceux qui font partie de notre vie, de notre chemin de vie, quoi, hein, qu'on rencontre au fil des virages de notre vie, quels qu'ils soient, ils font partie de nous. Et ils sont là pour nous aider à grandir. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc on n'a pas à juger quelqu'un qui nous donne l'opportunité de nous aider à grandir. Au contraire, il faut le remercier d'avoir été là et l'aimer et prononcer ces mots, même à haute voix, pour bien s'en donner cette certitude. Tu vois?
Oui.
Et il faut arriver. Ça, c'est pas habituel ce que je dis là. C'est pas facile non plus, hein. Et pourtant, je pense que c'est le bon chemin. Tu vois? Donc, c'est-à-dire être dans l'amour tout le temps. Être dans l'amour le plus souvent possible, 24 heures sur 24, si on peut. Y être tout le temps. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ça, l'éveil de conscience. C'est ça, la conscience. Tu vois? Alors, je pense que c'est important, surtout au moment d'élection, parce qu'il y a des tensions, les uns. Alors, je regarde un peu sur les Facebook de l'un, Facebook de l'autre. Alors, ils s'interpellent, ils s'insultent. Mais toutes ces tensions-là, toutes ces. C'est presque de la haine entre les uns et les autres, mais c'est fou. Tout ça ne favorise que ceux qui ont créé cela, c'est-à-dire le premier cercle. Alors, on continue d'être des esclaves. On continue d'être ce qu'ils veulent qu'on soit, quoi. Par nos jugements, par nos critiques, par notre haine, par... Et on continue de les nourrir et de faire ce qu'ils veulent qu'on devienne, c'est-à-dire des véritables esclaves. En croyant, argumentant, en jugeant, on croit s'affirmer. Non, non, on n'affirme rien du tout. On s'enfonce dans l'esclavage. C'est en sortant du chaudron avec amour et légèreté et joie que là, on sort et on se libère de nos chaînes. Ça, oui. Voilà, Cédric.
Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses justement par rapport au sondage? Parce que c'est vrai que on voit très souvent les gens utiliser le terme du vote utile en disant que
Oui, oui,
ils
oui.
sont pour le programme d'Asselineau, ils disent oui, il est très bien et tout ça, mais bon, il représente que même pas 5%, donc ça sert à rien de voter pour lui. Moi, je leur dis souvent, bah non, si vous pensez comme ça, effectivement, ce sera le cas. Essayez de faire l'inverse. Si
Et
tout le
bien
monde
sûr, bien sûr, bien sûr.
comme vous, effectivement, il n'y aura pas de chance. Par contre, si on pense de façon inverse, bah là, on va changer les choses. C'est pour ça que souvent, j'essaye d'interpeller comme ça, de dire, attention, le vote utile, mais vote utile pour qui? Pour vous ou pour quelqu'un d'autre?
Et oui, bien sûr. Et c'est oui, mais tu as tout à fait raison. Je pense pareil. C'est vrai qu'il faut. Bah, Asselineau dit, il faut voter selon ses convictions. Et c'est vrai que dans la vie, en général, il faut faire ce qu'on aime faire, mais ne pas faire ce qu'on aime pas. Ne pas faire ce qu'on n'aime pas, mais faire ce qu'on aime. C'est ça qui est important. Et pas s'occuper de voilà. Donc là, c'est vrai que si on est pour Mélenchon, ben on vote Mélenchon. Si on est pour Lassalle, on vote Lassalle et on ne s'occupe pas de savoir si ça va aider, je sais pas qui. Non, c'est ça qui est important. Mais bien sûr, mais bon, les gens sont comme ça. Le vote utile, alors effectivement, ça va peut-être nuire à Asselineau. Mais tu sais, les sondages, c'est vrai
Oui.
que les sondages sont très amusants. Mais enfin, ils sont bien sûr qu'ils sont manipulés. Un sondage n'est pas fait pour, comme ils disent, de montrer l'instant T. Mais non, c'est un sondage, c'est un outil de manipulation. Hein, on le sait. Depuis longtemps, c'est comme ça.
Oui.
D'ailleurs, c'est Philippe de Villiers qui disait, Philippe de Villiers qui raconte, quand Maastricht allait être voté, il avait formé un parti politique, je crois, et il avait formé autour de lui une équipe dont cet homme qui était très riche, qui s'appelait Gollnisch, c'est pas ça, je crois, enfin, je sais plus.
Peut-être.
Et donc, les élections approchaient, et puis il y avait des sondages, comme maintenant, pourtant il y a une trentaine d'années. Et ils étaient toujours à 1%, et ils ne comprenaient pas, parce qu'ils faisaient des meetings un peu comme Asselineau. Ils faisaient beaucoup de monde, etc. Et puis finalement, ils se sont aperçus que les sondages étaient payés par les partis politiques. Alors, quand ils se sont aperçus de ça, ben, ils se sont dit, bon, on va faire pareil. Alors, ils ont acheté des sondages. Alors, ils ont acheté TF1, je crois, une partie de TF1. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me souviens plus bien. Bref, ils ont acheté des sondages et en une semaine, de 1%, ils sont passés à 10%.
Ah oui, non mais je suis pas du tout étonné hein. Quand on voit qui c'est qui contrôle les sociétés de sondage, on comprend tout de suite le.
Et oui, alors c'est assez grossièrement fait parce que en ce qui concerne Asselineau, j'ai observé que il a toujours 1%,
Oui.
toujours 1%, hein, c'est immuable. Et pourtant, ceux qui font les sondages auraient dû s'apercevoir qu'il y a 2 ans, au moment des élections régionales, il avait fait 0,9,
Oui, c'est clair.
alors qu'il était très peu connu, qu'il avait que 6 000 adhérents à son parti. Et donc, logiquement, il devrait faire deux ou trois. Il devrait lui mettre deux ou trois pour que ça fasse plus logique.
Oui, si on
Bon,
voulait.
il est pareil qu'il y a 2 ans, ce qui est pas normal, quoi. Donc, logiquement, il a au moins 3 ou 4 %, quoi. Il semble, hein, voilà. Alors, il y a d'autres sondages sur Internet, j'ai vu, qui le donnent largement gagnant.
Oui, c'est vrai que. Alors, il y en a, ils disent les excuses, ils disent oui, c'est parce que c'est tous ceux qui sont membres de UPR, pardon, qui se le passent entre eux. Et voilà, il y en a qui essaient toujours de tirer un peu la couverture quand ça va pas
Oui,
dans leur
alors c'est
sens.
sûr, mais les uns ou les autres ne sont pas tout à fait justes, c'est certain.
Oui.
Et si on fait une moyenne de tous ces sondages, Bon, ben, Asselineau pourrait avoir, se trouver avec 12 ou 15%, quoi, logiquement. Bon, mais peu importe, allez, peu importe, on verra dimanche et
Tout à
puis
fait.
il fera ce qu'il fera. Mais à mon avis, il fera quelques pourcents, ça c'est sûr. Il fera 5, 6, peut-être. Peut-être 12, peut-être 15, peut-être 20, on ne sait pas.
Oui, en tout
Parce
cas, je...
que j'ai lu hier ou avant-hier que beaucoup sont indécis et beaucoup ne savent pas pour qui ils vont voter.
Oui.
Non, il y a les indécis qui vont pas voter, mais il y a une grande partie de ceux qui votent qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Alors c'est sûr que jusqu'au dernier moment, il y a beaucoup d'indécision, hein, ça c'est certain.
Oui. Et en tout cas, j'ai vu aussi sur notamment sur Facebook, hein, parce que c'est le plus gros réseau social, hein, qui est, on va dire, actuellement sur Internet. J'ai vu des gens qui étaient abstentionnistes et que quand ils ont vu le programme de François Asselineau, ben ils ont repris leur carte d'électeur et ils savent pour qui ils vont voter.
Oui, il
Je
y en a
trouve quand
beaucoup,
même
j'ai vu
que
ça aussi.
c'est quand même quelque chose. De pas mal, hein, parce que ces personnes-là, c'était des abstentionnistes depuis au moins en moyenne, on va dire, d'une dizaine d'années, hein. Donc, c'était
Ben,
pas des petits.
moi, c'était mon cas, je ne vote pas depuis des années et des années, je ne vote plus. Et c'est vrai que là, je vais voter. Bon. Moi, je ne votais plus parce que ben, c'est vrai que je ne trouvais rien qui me convienne. Et j'ai compris depuis longtemps comment ça marche, quoi. Je sais bien que ni les uns ni les autres ne peuvent appliquer leur programme si tant est qu'il est intéressant, quoi, hein. Donc je sais bien comment les choses marchent.
Oui.
Bien sûr que je ne sais pas quelle aurait été la manière de faire en sorte que le système s'effondre. Donc moi je me disais que la meilleure solution est de ne pas voter. Alors est-ce que j'ai eu raison? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années, quoi. Alors si Asselineau passe, c'est ce qui est intéressant dans sa proposition, c'est que le vote blanc
Oui.
aura un rôle à jouer.
On va revenir dans une réelle démocratie, comme ils le disent.
Voilà,
Hein. Pour
ça
rappel,
c'est
hein, Demos, parce que je me retrouve, oui, Demos, le peuple, et Kratie, le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. Voilà, du
Oui,
grec.
c'est vrai que là, on va s'en rapprocher. Encore que la vraie démocratie, c'est celle qui se pratiquait en Grèce, qui a été créée par la Grèce, qui a tenu 200 ans à peu près, et les partis politiques étaient interdits, et les élections aussi, et tout se faisait par tirage au sort. Et ça, je trouve que c'est la vraie. Alors là, c'est la vraie démocratie pour le coup.
Ah là, oui.
Ça marche. Eh oui, c'est bon. Peut-être qu'on pourra pas y... on n'y arrivera pas cela, mais enfin bon, c'est vrai que donner sa voix au vote blanc, c'est déjà intéressant.
Oui.
Ça va obliger les hommes politiques à, eh bien,
Surtout.
à être meilleurs, à être plus convaincants, à être plus honnêtes, je ne
Tout
sais
à
pas.
fait. Et c'est vrai qu'en plus, on voit qu'aux dernières élections, donc c'était les régionales, si je ne me trompe pas, on a vu quand même que l'abstention déjà était vainqueur. Donc, ceux qui ont fait de l'abstention, c'est parce qu'ils
Ouais.
savaient très bien que le bulletin blanc, il servait strictement à rien. Mais si le bulletin blanc était effectif, je pense que les élections, ils auraient été carrément tout simplement annulées. Parce que
Bien
les gens
sûr.
ne trouvaient plus.
Bien sûr, bien sûr. J'aime bien la proposition d'Asselineau de dire si le vote blanc l'emporte, l'élection est reportée et ceux qui s'étaient présentés ne peuvent plus se représenter. Alors, ça me plaît beaucoup, ça. C'est le renouvellement de la classe politique parce qu'en fait, on sait très bien que un homme politique, ce n'est pas un métier, quoi, la politique. Mais il y a plein de gens, beaucoup de gens, des jeunes qui font, quel que soit leur métier, qui seraient tout à fait capables de réfléchir et de mener le pays, quoi. Hein,
Oui.
donc,
Et surtout
voilà.
qu'ils instaurent aussi le casier vierge.
Alors, ça, c'est intéressant aussi,
Oui.
oui, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, ça,
Et
c'est
oui.
important.
Moi, je
C'est
trouve que
important.
c'est même tout à fait normal, parce que moi, je vais parler en connaissance de cause par rapport à moi, qui ai fait une formation de CQPAPS, donc d'agent de sécurité. On nous demande d'avoir un casier vierge. Sinon, si c'est pas le cas, même si on a fait des petits délits qui n'est peut-être pas très grave, on va dire en soi, eh ben, on ne peut pas exercer ce métier-là parce qu'on n'est pas intègre.
Oui, mais
Donc je
c'est.
trouve tout à fait normal qu'un homme politique qui va représenter un peuple doit être intègre aussi. Il doit montrer l'exemple.
Oui, alors pour ce qui est, oui, pour ce qui est des hommes politiques, je trouve que c'est important. Maintenant, un casier judiciaire pour beaucoup de ces métiers, quelquefois, un casier judiciaire, des fois, on peut avoir fait une bêtise quand on avait 20 ans, on n'est pas obligé d'en subir les conséquences quand on en a 50, hein. On peut changer dans la vie quand même, hein, voilà.
Oui.
Donc là, il y a peut-être des mesures à prendre pour adoucir un petit peu ça.
Oui,
Mais
enfin,
pour un homme politique, c'est vrai que c'est important. Ouais,
oui.
c'est important,
Oui,
parce
parce
que
que
sinon, il n'arrête, il n'y a pas de limite, quoi. Hein, voilà.
bah, on le voit malheureusement avec ce qui s'est passé avec François Fillon, hein. Plus on avance dans les jours et plus on voit des nouvelles choses, quoi. Là, c'est un peu l'histoire de l'oignon qu'on épluche, hein, donc.
Ouais, alors, oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, Fillon, on lui en a mis tellement sur le dos qu'on peut avoir des doutes un petit peu sur la véracité de tout ça, quoi. Parce que là, vraiment, ça a été un acharnement sur le pauvre Fillon, là. Il y a sûrement du vrai, mais je pense qu'il y a une centaine de députés qui
Oui,
peuvent,
qui sont tout autant pareils.
qui pourraient en avoir tout autant. Donc, bon, voilà. Là, on a voulu le démolir, mais il a eu la force de caractère de tenir bon, d'après ce qu'on voit, hein, voilà. Bon, donc, bon, ben, maintenant, s'il est élu, ben, il fera un aussi bon président. Il sera pas plus mauvais que les uns et les autres, quoi. Hein, voilà, il fera son boulot, j'imagine.
Oui,
Espérons-le.
oui.
Mais je pense que c'est lui qui sera élu. Je sais pas pourquoi.
Moi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que Asselineau risque d'être la très grosse surprise qu'on s'attendait pas. Déjà, on a
Ah,
eu le tour avec Trump. Hein.
j'y crois aussi, j'y crois aussi, mais j'y crois aussi. J'avais écrit il y a quelque temps que au deuxième tour, il y aurait Fillon et Asselineau. Nous verrons. Ça serait magnifique, bien sûr. Ça serait
Parce que c'est
magnifique.
vrai que beaucoup ne pensaient pas que Trump allait remporter les élections américaines. Ils étaient tous pour Clinton. Mais quand ils ont vu que c'était Trump, et après ils ont dit, parce que là-bas aux États-Unis c'est pas pareil, il faut qu'il passe par le collège pour confirmer l'élection, et ça a bien été confirmé, donc quelque part, ça a été un
Oui,
sacré étonnement quand même, hein.
bien sûr. La différence, c'est que Trump est très riche
Oui.
et que même si les sondages ne le donnaient pas gagnant, bon, les sondages le donnaient quand même à une certaine hauteur. Alors qu'à Asselineau, les sondages le donnent, ils peuvent pas faire moins que de mettre 1%, donc il n'existe pas, quoi. C'est assez curieux. C'est pour ça que si il était au deuxième tour, ça serait plus qu'une surprise. Hein. Ça serait plus qu'une surprise. Mais
Bah.
le système ne veut absolument pas de Asselineau, donc peut-être
Ah
que.
non. Non, ça c'est
J'espère.
sûr. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, je remarque un peu parce que sur Facebook, avec les différents échanges que j'ai avec des personnes, avec des personnes musulmanes hein, notamment, je remarque que la communauté musulmane sont extrêmement derrière Asselineau. J'ai vu une personne qui sortait justement de la mosquée. Et elle disait que dans tous ceux qui étaient là, elle dit, il y avait 1500 personnes, et les 1500 personnes sont tous pour voter pour Asselineau.
Ça, c'est
Je me disais,
magnifique.
c'est vraiment fort, parce que quelque part aussi, il fait rassembler des gens, peu importe leur religion, ou leur croyance, ou leur ethnie, pour lui, ça reste le peuple français. Et d'ailleurs, c'est le seul quand même qui parle des dom-toms. Moi, j'ai pas entendu les autres parler des dom-toms et de ce qu'ils subissent. Moi, je
Ah
pense
oui.
que les dom-toms aussi, on les oublie très souvent, mais c'est pas non plus 600 personnes, hein.
C'est vrai, c'est vrai,
Voilà.
c'est vrai. Oui, mais il a. C'est très juste, oui, son intention, justement, il n'y a jamais un mot contre les immigrés, enfin
Oui.
bon, je trouve que c'est super, oui, mais c'est un homme bon, hein, c'est un homme bon et juste, je trouve que, ouais.
Et c'est vrai
Et
qu'en
tant
plus,
mieux
il.
si les musulmans de France penchent pour lui,
Oui.
c'est magnifique, oui.
Et c'est vrai qu'en plus, il le disait que par rapport donc, à toutes ces préparations d'élection qu'il a faites, il a dit, moi, l'argent vient des gens qui me soutiennent, de mes adhérents. Je n'ai fait aucun emprunt à aucune banque.
Oui, ça, il l'a dit
Voilà.
souvent, oui, j'ai entendu.
Il m'a dit, moi, je
Oui,
suis intègre par rapport à ça. Je ne reçois pas d'ordre. Quand on sait que
oui.
c'est les marchés financiers qui contrôlent tout. Hein. D'ailleurs, justement, Emilio Carrillo en parlait dans le texte que tu as traduit. Voilà, je vais juste dire la petite phrase que tu as donc traduite. Ils se disent les maîtres du monde, un noyau très réduit qui dirige et gouverne les élites mondiales, financières, des affaires, militaires, politiques, sociales et religieuses, et à travers elles, l'humanité. Donc tu vois, en fait,
Oui.
beaucoup de gens comprennent que c'est vraiment les banques et tout ça. Alors quand je parle des banques, je ne parle pas des petites banques, je parle des banques mondiales. C'est elle
Bien
qui
sûr.
contrôle toutes les autres. Donc, qu'on comprend que le fameux hein, candidat hein, de la banque Rothschild, hein, pour pas le nommer, on voit très bien qu'il n'est pas du tout intègre par rapport à ce qu'il dit. Il n'est pas du tout cohérent, en fait. On le voit de suite. Il ne colle, ça,
C'est vrai, mais il joue bien son rôle parce qu'on lui a donné un rôle à jouer, et il le joue bien, voilà. Oui, bien sûr, mais il n'a pas de conviction personnelle, il a juste la conviction du système. Bon, il le dit avec, maladroitement souvent, parce qu'il sait pas trop, il manque de culture, il me semble. Mais il est là. Alors bien sûr, il est fabriqué par le système, quoi, hein, il est fabriqué.
Ouais, d'ailleurs, il y avait une émission qui a été censurée, hein, de journalistes qui avaient interviewé des gens qui sortaient justement de son meeting. Au bout de 15 minutes, ils demandaient pourquoi vous sortez. Et la plupart du temps, c'était parce que c'était creux, c'est que du vent, c'est inintéressant, c'est ennuyeux. Donc voilà. Donc
Oui, mais
les
malgré
gens s'en rendent
tout,
compte, ouais.
si la presse, puisque c'est ce qu'on a vu jusque maintenant, la presse le soutient, c'est là où on voit que la presse a un pouvoir important, quoi, immense, hein.
Oui, mais
Et elle est capable de créer un candidat de toute pièce, quoi.
oui, mais je vais quand même souligner par rapport à un sondage qui a été fait en direct il y a quelques mois par un journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, Bourdin, de BFM TV. Il avait fait un sondage en demandant au public, aux auditeurs, est-ce que vous pensez que les médias vous mentent? Et d'ailleurs, le sondage a été très vite arrêté. Il y a eu pas loin de 8000 votes. Et le taux de réponse à oui était de 95%.
Ah oui.
Voilà, donc les gens commencent à être conscients de voir la supercherie des médias. C'est surtout qu'en fait, qu'on veut savoir ce qui se passe en France, il faut regarder dans les médias étrangers. C'est malheureux, mais c'est ça. Qu'on regarde les mêmes faits,
Oui.
en France, ce n'est pas dit de la même manière, et de l'autre côté, c'est dit d'une autre manière. Et moi je me disais, c'est quand même bizarre qu'il y ait une sacrée différence comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'en fait, il y en avait une, c'était c'est ce qu'on veut nous mettre en tête. Et ça, c'est une technique qui était utilisée justement par Hitler pour arriver avec son parti nazi à le mettre au pouvoir. C'était en fait de répéter, comme il le disait, plus vous répétez un mensonge, et plus il passera pour une vérité.
Oui, c'est un de ses sbires là. C'est pas Goebbels qui disait
Si,
ça.
c'est ça, c'est Goebbels, ouais.
Oui, mais bien entendu, bien sûr. On le voit tous les jours.
En fait,
C'est sûr.
ils n'ont rien inventé, hein. Ce sont des choses qui sont reprises, hein. Même les attentats, hein. Hitler le disait aussi dans. D'ailleurs, j'avais partagé il y a quelques temps, c'était à l'époque des Charliens, là, qui disait que il n'y a pas meilleur contrôle que qu'un peuple ait peur de mourir, en fait. C'est-à-dire que. Bon, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais je ne sais plus exactement la phrase exacte. Mais en gros, pour contrôler un peuple. Le meilleur moyen, c'est qu'il ait la peur d'une mort rapide, imminente. En
Oui, bien
gros,
sûr.
d'attentats, etc.
Les maintenir dans la peur de la mort,
C'est ça.
aide ceux-là à contrôler, bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, en gros, c'est la peur. Mais tu sais, les peurs, l'origine, c'est la peur de la mort. C'est toujours la peur de la mort qui va diriger vers toutes les autres peurs, la frustration, la dévalorisation, le manque de confiance. C'est peur de la mort qu'il y a derrière, qui se cache, tu sais. Bien sûr. Donc les peurs, voilà, l'attentat qui a eu hier, ça a généré des peurs certainement de ceux qui étaient témoins, mais de ceux qui le regardaient à la télévision, et puis voilà. Et après le ton qu'emploient les politiques pour en parler, les journalistes, amplifie encore cette peur. Cette peur, elle s'en va comme, tu sais, quand tu jettes un caillou dans l'eau, ça se propage en ondes, et des ondes qui n'en finissent jamais, quoi.
Oui.
Et voilà, ça c'est des techniques, bien sûr, hein. Utilisé par Hitler et bien d'autres. C'est vrai. Mais l'important, c'est justement de sortir de la peur. Sortir de la peur. Et tu vois, il me vient, je ne sais pas pourquoi il me vient cette idée, c'est que, en fait, on parle souvent de le New Age
Oui,
par les
aussi.
sauveurs, hein. Parce que le New Age, il faut faire attention, hein, c'est une fausse lumière, et le New Age a été créé par le système aussi, hein.
Oui, ça a été lancé par Elena Blavatsky,
Oui.
donc théologienne de formation, qui a été repris par Alison Bailey, qui a créé ensuite par la suite en fait la Lucy's Trust, qui est là pour promulguer justement cette religion universelle qui va avec le nouvel ordre mondial, parce que ils ont très bien compris que le nouvel ordre mondial ne peut pas s'installer sans une religion universelle. Voilà, c'est un peu, mais effectivement c'est. C'est ce que tu dis, hein, ce New Age, faire très 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 attention. Hein. Je vais
Alors,
juste rebondir parce que j'ai retrouvé la citation en fait d'Adolf Hitler qui avait dit par rapport à ça. C'est le terrorisme est la meilleure arme politique puisque rien ne fait réagir davantage les gens que la peur d'une mort soudaine.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bon, ben, tu vois, il a eu il a fait des émules.
Ouais, on peut dire ça, ouais.
Il a fait des émules. Ben oui, ça. Il y en a eu beaucoup. Tous
Oui.
les attentats, d'ailleurs, quand on les regarde bien, ils ont un fil conducteur entre tous ces les dates, tout ça. Il y a beaucoup de choses intéressantes.
Oui, et souvent avant
Et
les élections aussi.
oui. Mais rien ne se fait par hasard. Hein.
Non.
Bon, pour venir au New Age,
Oui.
il y a deux choses que je voulais dire. On parle beaucoup d'un sauveur, hein, dans le New Age.
Oui.
Mais il n'y a pas de sauveur. Ça n'existe pas, les sauveurs. Et Asselineau n'est pas plus un sauveur que notre. Asselineau, il ouvre la voie comme beaucoup peuvent le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il parle à l'intelligence des gens. Ça plaît bien de dire ça. Ça me plaît. Mais il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir sauver l'humanité. Ça n'existe pas. Ça, c'est important de comprendre.
Oui.
Et je disais que le New Age avait été créé, mais tu sais, quand on est un chef d'entreprise, une grosse entreprise, et puis qu'on a peur d'un concurrent, mais qu'est-ce qu'on fait? On crée un concurrent. On crée une entreprise qui a l'air d'être complètement différente et qui a l'air d'être concurrente de notre entreprise. On la crée à proximité. Ça empêche toute concurrence de s'installer. Eh bien, le New Age a été un peu ça aussi. Voyant la spiritualité poindre son nez un peu partout, ben qu'est-ce qu'on crée? On crée quelque chose qui a l'air d'être de la spiritualité pour englober tous les gens, tous les gens qui sont dans ce chemin, leur faire croire que c'est ça le chemin. Et là, il y a beaucoup de gens qui se sont perdus, parce que ça va nulle part, là. Hein. Quand on rentre là-dedans, ça ne va nulle part. Et il y a beaucoup de gens, bon, j'en ai rencontré beaucoup, qui ont fait 20 ans de spiritualité, de ci, de là, de machin. Et puis finalement, ils étaient toujours au même point. Un peu désespérés, même.
Oui.
Voilà. Ça a été aussi une manière de freiner ce mouvement, de freiner cette spiritualité qui naissait un peu partout. Tu vois? Donc il faut s'en méfier. Bon, maintenant, le New Age est un peu derrière nous. Mais il en reste des. Il y a encore des choses qui restent, quoi.
Oui,
C'est pourquoi
ça.
il faut se méfier souvent des canalisations, des gens qui canalisent Jésus, Marie, tout ça. J'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut beaucoup se méfier de ça, parce qu'on sait pas d'où ça vient, tout ça.
Oui,
Beaucoup
on
se
sait pas
méfier.
qui c'est qui est derrière tout ça. Ouais.
Il y en a qui font de très belles canalisations, mais il faut se méfier de beaucoup. Voilà. Donc c'est pareil, hein, parce que dans tout et dans ce domaine de la spiritualité qui est quand même le plus important, eh bien il y a aussi voilà des choses qui arrivent dont il faut se méfier. Il n'y a pas qu'en politique, tu vois. Hein? Mais c'est pareil, quand on prend conscience de ça, ben ça nous fait grandir encore, tu vois. Ça nous fait grandir quand on prend conscience de ça, quand on découvre. C'est ça, c'est là. L'éveil des consciences, c'est la nouvelle perception. On ouvre un regard plus large. On voit les choses, on comprend. C'est ça la conscience.
Oui,
Voilà.
oui. Ouais, c'est ce qu'on peut dire en fait pour un petit peu conclure cette émission parce qu'on arrive bientôt à
Oui.
22h. Mais oui, effectivement, c'est vrai que quand on regarde un petit peu toutes ces choses-là en arrière, ce New Age, enfin, il y a quand même des réminiscences de choses qui sortent un petit peu, on ne sait pas trop d'où. Mais c'est vrai que c'est les canalisations que tu parles et tout, faut faire très attention. D'ailleurs, moi, ça fait depuis un moment que je n'attarde plus aucune importance à ça. Moi, c'est juste ce que je ressens, ce que j'entends dans ma voix intérieure et tout. Et voilà.
Bien sûr,
Moi, c'est
parce
uniquement
que
ça.
voilà, mais tu as raison, tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, on a tout en nous. Chaque être humain a tout en lui. Tout, 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 tout. Alors, il y a toujours des gens qui ont plus une capacité dans un domaine ou dans un autre. Ok, mais en fait, on a tout quand même en nous, même si ça ne s'est pas développé à ce moment-là. Alors, moi, c'est pareil, je suis pas canal. On me dit que je suis un peu quelquefois. Oui, bon, peut-être. Mais pas, peu importe, peu importe. Moi, qu'est-ce qui m'importe, c'est quoi? C'est de vivre dans l'amour, de vivre dans le pardon, sans jugement, de voir les choses de notre regard chaque fois, chaque jour différent, pour m'élargir et élever ma conscience. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est important.
Mais pour redire encore une phrase du personnage de Socrate, du guerrier pacifique, c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Ce qui est triste, c'est pas la mort. Ce qui est triste, c'est de ne pas vivre, en fait, tout simplement.
Mais bien entendu, c'est ça, c'est vivre. Il y a quelques jours, sur Facebook, je voyais une amie dire, je pense, sur une petite phrase, il y avait « Vis tes rêves ». Et j'ai fait ma petite réponse, j'ai dit non, « Vis plutôt ta vie ».
Oui.
Vis plutôt ta vie. Et c'est ça qui est important, c'est de vivre notre vie. Vivre notre vie. Que ce soit la pluie, le beau temps, ben vivons la pluie, vivons le beau temps pareil. Tu vois, c'est ça qui est important.
Mais...
Et de ne pas aimer plutôt ça et pas aimer ça. C'est vivre, vivre tout ce qu'il y a à vivre et qui arrive, et le vivre avec la même intensité, la même joie, le même plaisir, le même bonheur, la même paix. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que ce soit sucré, que ce soit trop salé, que ce soit... Tu comprends ? Et c'est ça, c'est vivre dans l'unité, et c'est ça, vivre. C'est ça, vivre. Voilà. C'est vivre chaque instant et dans l'instant, chaque chose qui arrive, avec la même joie.
Oui, c'est ce qui est le plus important et c'est vrai qu'on a des fois un peu tendance à un peu oublier ça par rapport aux émotions, qu'on les laisse un peu trop prendre la place, qui, comme on le rappelle, sont tout à fait naturelles. Hein. Il ne faut surtout pas les réprimander. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier. Et puis comme je le dis souvent, la perfection n'existe pas de ce monde. Même Dieu, dans son humble sagesse, dirait qu'il n'est pas parfait, mais qu'il apprend de ses erreurs.
Alors, bon, là si tu commences à dire une phrase comme ça, je suis parti pour une heure.
Oui.
Je dis qu'au contraire, tout est parfait. Tout est parfait. Qu'est-ce qui n'est pas parfait en nous ? Ce sont nos mémoires, l'ego, le mental. Oui, d'accord, ce qu'on voit n'est pas parfait, effectivement. Mais l'âme qui est en nous, cette âme, qui nous vient de la lumière, elle est parfaite. Et c'est vraiment ce que nous sommes, une âme, un être spirituel. Et cet être spirituel, lui, il est parfait. Parce qu'il est Dieu. Dieu est parfait. Tu vois ? Bien sûr que l'être que nous sommes, incarné, avec toutes nos mémoires, nos croyances, effectivement, on est loin d'être parfait. Mais notre travail, justement, c'est d'arriver vers la perfection. Et Ho'oponopono, c'est ça, hein, c'est aller vers la perfection. Aller chaque jour vers la perfection et la paix. Tu vois, comme ça, je conclue sur Ho'oponopono.
Voilà, oui. On finit sur la note. Sur cette belle note. Bon, on est dépassé un petit peu de quelques minutes, mais ce n'est pas très grave. C'est comme ça que va donc se conclure cette émission de Spiritualité en question. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Et juste pour faire une petite publicité, n'oubliez pas que le 17 mai, à partir de 20h30, il y aura le retour des soirées Terrazen avec deux invités, Eric Nicolet et Franck Nabé, pour nous parler des musiques thérapeutiques. Et comme vous avez dû l'entendre, le générique des émissions ont changé. Et c'est grâce à Eric Nicolet que je remercie... beaucoup hein, de son aide et de ses compositions pour la radio. Voilà. Voilà. Donc, je vais te dire une très bonne soirée, Jean, et puis à très bientôt.
À très bientôt. Merci. Bonne
soirée.
Et puis,
donc, au mois prochain.
Au mois prochain. Entendu.
Voilà. Allez, je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.